Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main.
Jésus-Christ est ma sagesse,
Jésus-Christ. C'est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main.
Il est ma justice.
Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi.
Oh.
Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice, paix et pardon par la foi.
Jésus en payant ma dette,
Jésus en payant ma dette, à grand prix m'a racheté, et déjà ma place est prête. Au ciel pour l'éternité.
Oh,
Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête. Au ciel pour l'éternité.
Nous te bénissons, Seigneur, pour ta fidélité. Nous prions que tu nous diriges dans ce temps d'écoute de ta parole. Que ton Esprit Saint grave ces paroles dans nos cœurs et produise du fruit à travers ces paroles en nous, en créant en nous un cœur de foi, que nous croyons en ce qui est dit dans ta parole. Que l'Esprit, par ta parole, produise en nous la foi, Seigneur. Car c'est par la foi que nous sommes sauvés. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Nous allons prendre Luc, le livre de Luc, évangile de Luc, au chapitre 19. Luc, chapitre 19, à partir du verset 28. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, « Pourquoi le détachez-vous ? » Vous lui répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, « Pourquoi détachez-vous l'anneau ? » Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils emmenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Jésus va s'approcher de Jérusalem et il veut montrer à ses disciples que c'est lui le Seigneur, le Dieu vivant. Il leur dit, vous allez aller dans la ville, vous allez voir dans une propriété, il va y avoir un anneau. Détachez cet anneau. Et si on vous pose la question, de quel droit vous détachez cet anneau? Par les propriétaires de l'anneau. Vous leur direz tout simplement, le Seigneur en a besoin. Le maître en a besoin. Donc là, il y a deux maîtres. Il y a le maître humain de l'anneau, le propriétaire de l'anneau, de l'animal, mais il y a un plus grand maître, c'est le Seigneur de l'univers. Donc dites-leur que le Seigneur de l'univers en a besoin. Le chef du monde, le Créateur en a besoin. Nous allons parler du fait que Jésus est le Seigneur, le chef, le maître de l'univers. C'est lui le Créateur. Certains pourraient croire que Jésus connaissait le propriétaire de l'anneau, de l'animal. Et quand il envoie donc ses disciples récupérer l'animal, quand les disciples disent « Le maître en a besoin », le propriétaire va comprendre que son ami Jésus ou bien son rabbin Jésus en a besoin. Non. Parce que si c'était le cas, ils allaient commencer par ça. Aller voir le propriétaire de l'animal pour dire, le maître que vous connaissez bien, Jésus, il nous envoie prendre l'animal. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont pris l'animal. Jésus a dit, vous prenez l'animal. Ce n'est que quand ils vont vous poser la question, dites-leur, le chef en a besoin, le maître en a besoin. Donc ce n'est pas qu'ils connaissaient le propriétaire. Ce qu'il voulait montrer à ses disciples, tout le monde peut m'obéir si je le décide. C'est moi le maître. Je décide et la chose s'accomplit. Je suis le Seigneur. Je suis le maître. Et naturellement, nous ne voyons pas cela tous les jours que Jésus soit le Seigneur parce qu'on a l'impression que chacun fait ce qu'il veut. Les bandits prospèrent, les escrocs prospèrent, les faux politiciens prospèrent, la méchanceté prospère. Et même ceux qui croient en Dieu ont du mal à voir que Jésus est Seigneur. Mais tout ça est dû à la liberté. quand Dieu a créé l'homme, il a créé libre de ses choix. Parce que Dieu voulait un amour sincère. Il a tout créé, il a créé l'univers. Il a dit à l'homme, je te donne le pouvoir de régner sur l'univers, de donner même le nom aux animaux que tu n'as pas créés. C'est moi qui ai créé les animaux. Mais je te donne l'ordre, le pouvoir de leur donner les noms, de gérer l'univers. Mais attention, je suis ton Seigneur. Voilà ce qu'il a dit à l'homme. Attention, c'est moi le chef. C'est pourquoi tu ne toucheras pas à tel arbre, au fruit de tel arbre. Cette différence-là était là pour dire, c'est vrai, Adam, je te donne les prérogatives, les permissions, presque à mon niveau, puisque je t'autorise à donner les noms aux animaux. Je te mets chef de l'univers. Mais tu n'es qu'un petit chef. Parce qu'il y a un grand chef au-dessus de toi. C'est moi-même. La différence va se manifester par là, par le fait que tu n'aies pas le droit de toucher à tel arbre. C'est ça qui montre que tu es quand même sous mon autorité. Mais l'homme a reçu les conseils du diable. Le diable a dit à l'homme, mais non, il veut vous empêcher d'être comme lui, de chef au même niveau que lui. C'est pourquoi il vous a dit de ne pas manger le fruit de l'arbre. Adam a voulu être chef au même niveau de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Et à partir de ce jour, Dieu a laissé l'homme faire ce qu'il voulait dans le sens que ce qui était à l'homme, premièrement, a été contaminé par le péché et Dieu voulait montrer à l'homme, voilà les conséquences de ton péché. Et deuxièmement, pourquoi Dieu a laissé à l'homme de faire ce qu'il veut? Parce que Dieu voulait que l'homme constate l'échec qui suit le fait que Dieu ne soit pas dans l'affaire. C'est pourquoi les vrais hommes de Dieu comme Moïse, quand Dieu lui a dit, écoute Moïse, je t'avais promis la terre promise, mais comme je vois que ton peuple est mauvais, je te l'accorde la terre promise, mais moi je ne serai pas avec vous. Moïse a dit non. Moïse a fait mieux qu'Adam. On lui donnait la capacité d'être chef. On lui donnait la capacité d'avoir la terre promise, mais sans Dieu. Comme ça, c'est lui qui sera le premier chef. Mais Moïse a dit non. Seigneur, si tu ne nous accompagnes pas, si tu n'es pas notre chef dans cette affaire, moi je m'arrête là, je refuse aussi. Voilà ce que Dieu attend de tout homme. Il a laissé la liberté à l'homme. Vas-y, tu es libre, fais ce que tu veux, tu es autonome. Tu veux être autonome, vas-y. Mais tu constateras que ton autonomie va détruire, va te détruire toi-même. Ton indépendance va détruire ton entourage. Et je te jugerai pour ça. Voilà, bien-aimé, là où la seigneurie de Dieu revient quand même. Même quand il a tout laissé libre à l'homme, il a dit, mais je te jugerai. Parce qu'après tout, c'est à moi tout ça. Je te laisse libre de gérer même ta propre vie. Mais sache que je suis le Seigneur. Pour ce que tu feras de ce que moi je te laisse libre de faire, je te jugerai pour ça. Aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux, mais je te jugerai un jour. Lisons Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12. Il est écrit ceci, à partir du verset 1er. Jeune homme, quand on dit jeune homme, on parle de tout le monde, hein. Mais là, il est question du jeune homme parce que les gens pensent que parce qu'ils sont jeunes, Dieu les comprendra, donc ils n'auront pas de problème avec Dieu. Mais c'est écrit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux.
Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Oui, Dieu dit à tout homme, fais ce que tu veux, d'accord. Vous ne voulez pas que je sois votre chef. Vous ne voulez pas que je vous dirige. Faites ce que vous voulez. Mais vous allez constater que vous allez produire la destruction. Dans vos raisonnements, dans vos réflexions, dans vos libertés que vous allez prendre par rapport à ma parole, par rapport à ma volonté. Vous allez dire, il y en a qui disent, Dieu a dit ça, mais moi je pense, tous ces gens-là, d'accord, allez-y avec les « moi je pense ». Négligez la parole de Dieu. Il y en a qui prétendent même qu'ils ont reçu des révélations, mais ces révélations contredisent la parole. Dieu vous dit, continuez avec vos inspirations et révélations qui contredisent la parole de Dieu. Continuez, mais sachez que, à la fin de tout, je te jugerai. Je vais vous juger, parce que c'est moi qui suis le maître, je suis le Seigneur. Donc, c'est pour nous dire, Dieu n'a pas laissé tomber le fait qu'il soit Seigneur. Ce n'est pas parce que nous voyons que chacun fait ce qu'il veut sur la terre que Dieu a laissé tomber le fait qu'il était le maître de tout. Il n'a pas laissé tomber. Puisque l'homme n'a pas voulu que Dieu soit son maître, Dieu le laisse. Il te dit, bon, d'accord, fais par toi-même. Mais toutefois, ne détruis pas ce que moi j'ai créé avec puissance, avec amour. Fais par toi-même. Vous savez, c'est écrit d'un Corinthien. Celui qui détruit le corps, son propre corps, il détruit le temple de Dieu. Donc, il aura des comptes à rendre. Les gens qui disent, je fume, c'est ma vie. Dieu dit, d'accord, tu détruis le corps que moi j'ai créé avec puissance et beauté. Tu auras des comptes à rendre. Donc, Dieu n'a pas renoncé au fait à sa seigneurie. Il reste Seigneur. Mais nous sommes dans une parenthèse. Dans une parenthèse où Dieu veut montrer à l'homme que sans moi, vous allez échouer. Sans moi, regardez comment l'univers est rempli de mal, de souffrance, de tremblements de terre, de meurtre, de vol, de haine, de jalousie. Regardez sans moi ce qui se passe. Alors, humiliez-vous et revenez à moi. Voilà ce que Dieu est en train de dire. Humiliez-vous et revenez à moi. Arrêtez de conduire votre vie par moi-même. Décidez de vous remettre sous mon autorité. Et il parle ainsi, pas seulement aux gens qui sont dans le mal dehors, qui sont en train de tuer ou de se droguer. Il parle même aux gens qui se disent chrétiens, mais qui sont dans les faux raisonnements, qui en réalité viennent du fait que Dieu n'est pas vraiment leur chef. Ils ont cru qu'il est le Créateur, mais ils n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur. Ils ont cru que Dieu les a sauvés par son Fils à la croix, mais ils ne l'ont pas accepté comme maître. Or, Dieu nous rappelle qu'il est le maître ce matin. Il est le Seigneur. Tout est à lui. Il est écrit dans Ésaïe 1. Ésaïe 1. Le monsieur, quand on lui a dit, le maître a besoin de l'âne. Ah, il n'a pas ouvert la bouche. Le Seigneur a besoin de l'âne. Pourtant, c'est lui le propriétaire. Il n'a pas ouvert la bouche. C'est pour nous dire que si Jésus décide d'exercer sa seigneurie quelque part, personne n'en va ouvrir la bouche. Si Jésus décide qu'une telle personne est à moi, personne ne peut plus toucher. Il a dit à ses disciples, dites-leur que le maître en a besoin, c'est tout. Mais le propriétaire devait dire, mais non, mais c'est à moi. Ah non. Il n'a rien dit, parce qu'il y avait une puissance dans cette phrase-là qui l'a cloué, qui a fermé sa bouche, il a laissé. C'est le maître. Il a reconnu instantanément que c'était le maître. Lorsqu'on a lu le texte, lorsque Jésus entre à Jérusalem, les gens prient par cette puissance qui fait reconnaître dans le cœur de tout homme que Jésus est le maître. Parce qu'il y a une puissance, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est écrit dans Jean 16 que le Saint-Esprit convaincra le monde. Qui est le juge? Qui est le maître? Il convaincra le monde du jugement. Donc il y a cette puissance qui existe. Si Dieu décide que cette puissance agisse, les gens reconnaissent. Et c'est là que les gens dans leur cœur ont reconnu que Jésus était le Seigneur. Pourtant, Jésus, il se promenait à pied avec des hommes simples, des pêcheurs de poissons. Il n'avait pas une armée de soldats autour de lui. Mais ces gens-là, à partir de ses prédications, à partir de la vie de Jésus, bref, à partir de la puissance et de la gloire, l'amour de Jésus, ils ont compris que c'était le Dieu vivant qui nous a visités. Et quand ils commençaient à entrer à Jérusalem, assis sur l'âne, ils ont mis leurs vêtements. Vous savez, ce n'est pas Jésus qui allait marcher sur leurs vêtements, c'est l'âne qui allait marcher sur leurs vêtements. Ils ont mis leurs vêtements. C'est comme si on met des vêtements pour que les voitures des personnes marchent, roulent dessus. Ce n'est pas les personnes elles-mêmes. Ce n'est pas Jésus qui allait marcher. C'est l'âne sur lequel Jésus était assis qui allait marcher sur les vêtements. Parce que ces gens-là ont été saisis de la puissance du Saint-Esprit qui leur a dit « Ça, c'est le Seigneur. » Tranquillement, ils ont mis leurs vêtements. C'est pourquoi notre question aujourd'hui, c'est la suivante. Notre propos, c'est le suivant. C'est que il faut tranquillement reconnaître que Jésus est le Seigneur. Parce que tôt ou tard, tu le reconnaîtras. Parce qu'il a la puissance pour te faire reconnaître. Mais il veut que tu comprennes et que tu le fasses de toi-même. Ainsi, tu as une vraie relation avec lui. Mais si tu résistes, ne t'en fais pas. Il a la puissance pour te le faire reconnaître un jour ou l'autre. C'est le texte final que nous lirons. C'est écrit dans Philippiens 2. Que un jour tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais quand aujourd'hui, il veut que tu comprennes qu'il est le Seigneur. Il y a un homme qui s'appelle Lewis qui a pris la Bible pour démontrer que Jésus était un faux. Et en lisant bien la Bible, il a fait un livre pour démontrer que Jésus était Dieu. En lisant, il a compris que Jésus n'a jamais laissé un petit doute aux gens qui étaient autour de lui. Un petit doute sur sa divinité. Il a clairement manifesté et proclamé. Et donc, si tout le monde, ce monsieur-là a dit, si tout le monde est prêt à utiliser la parole de Jésus, aujourd'hui, tout ce qu'on voit, les œuvres de charité, même la loi de nos pays, ce sont des choses qui viennent de la Bible. Si tout le monde est prêt à reconnaître que, parce que tout le monde reconnaît que les enseignements de Jésus sont parfaits et ont un degré élevé de moralité et d'amour. Il dit, mais si ils reconnaissent que Jésus a donné de tels enseignements, pourquoi ils n'acceptent pas la partie où lui-même il dit qu'il est Dieu? Lui-même, il manifeste cela clairement. C'est le refus d'avoir un chef. L'homme a en lui un orgueil. C'est l'orgueil qu'on a hérité d'Adam. Le refus d'avoir Dieu comme chef, comme maître. Maintenant, Dieu dit, bien-aimé, nous, on n'est pas là pour flatter. On dit la parole. Maintenant, Dieu dit, que tu reconnaisses ou pas qu'il est le maître, tu reconnaîtras aujourd'hui, un jour tu reconnaîtras. Parce qu'il viendra dans sa gloire et dans sa puissance. Que tu le négliges aujourd'hui, parce qu'il y a des chrétiens aussi qui négligent. Ils sont bien d'accord pour beaucoup de choses, mais la partie où Dieu est le maître de leur vie, ils ne veulent pas. Mais un jour, ces mêmes chrétiens reconnaîtront. Ils diront, ah, je crois que j'ai conduit ma vie par moi-même et j'ai échoué. Seigneur, reviens, prends le contrôle. Mais nous souhaitons que ce soit un jour très rapide pour chacun d'entre nous. Parce que dès que Jésus est ton maître, c'est ce qu'on va expliquer aussi. Ah, ça devient excellent. Quand il devient ton maître, le nom de Jésus est marqué sur toi, ben, tout est ouvert pour toi. Sa protection, sa gloire, son amour. Tu deviens le fils du roi des rois et ça change tout dans la vie d'une personne. Donc c'est écrit dans Ésaïe chapitre 1er, au verset 2. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Dieu parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Dieu a créé les hommes. Il a créé la terre, les fleurs que l'homme est en train d'adorer. Les voitures que l'homme est en train de chérir, c'est fabriqué par quoi? Par les choses que Dieu a créées sur terre. Le soleil, il y a des gens en France qui sont prêts à mourir pour le soleil. Ils préparent les vacances à la rentrée, c'est-à-dire qu'on arrive au mois de septembre, ils préparent déjà les vacances du mois de juin. Tout ça pour le soleil et l'autoroute A6. Donc ça devient bloqué en ce moment-là. Mais ce soleil, il vient d'où? Il vient de Dieu. C'est ce que Dieu est en train de dire. Moi, j'ai fait tout ça, mais les gens se sont révoltés contre moi. Verset 3, le bœuf, c'est là où Dieu se moque de nous. Il dit qu'on est moins intelligent que les animaux. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Mais Israël ne connaît rien, c'est-à-dire l'homme ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. L'homme est de la race de Dieu parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Actes des Apôtres. Il dit, nous sommes de sa race. Donc la créature qui devait le plus s'attacher à son maître, c'est l'homme. Il dit, mais même le bœuf connaît son maître. L'âne connaît son maître. Mais comment l'homme peut ignorer son maître? Le Seigneur veut nous rappeler. Il est le Seigneur. Reconnais-le comme Seigneur de ta vie. Il est le Seigneur. Et il veut que sa seigneurie se manifeste d'une manière positive, agréable, et non pas le jour du jugement d'une manière négative dans le sens où il va frapper par sa seigneurie. Il jugera. Aujourd'hui, il veut que sa seigneurie sauve. Il veut te dire, sois réaliste. Tu as échoué. L'homme a échoué dans ses tentatives de trouver le bonheur. Une maladie succède à une autre. L'espérance de vie s'allonge. D'accord, la durée de vie s'allonge. Mais c'est quelle vie? Une vie dans l'impotence. Avec, vous savez, il y a même une sorte d'objet qu'on a fabriqué, j'ai oublié le nom. Ça sert à mettre ses comprimés. Ça s'appelle comment? Pilulier. Ah, bien aimé, je ne pense pas que ce mot-là existait dans les années 20. Hein. Donc, un petit objet où tu mets tes comprimés pour que tu te rappelles le lundi, il y a 14 comprimés, le mardi, 12, le mercredi, 16. Et à quelle heure? C'est ça la vie qu'on a prolongée. Je rigole. Et Dieu rigole. Il dit, ah bon? C'est ça la vie que vous avez prolongée. Nous qui croyons, nous prolongerons éternellement notre vie au ciel. Là, il n'y aura pas de pilulier. Au ciel, tu respires, et tu n'as plus besoin de médicaments, la gloire de Dieu t'entoure, tu peux dormir sur un tigre, il ne va rien te faire. Parce que le tigre du ciel, il est doux. Vous savez que vous vous imaginez un oreiller, ton oreiller c'est le tigre. Mais l'homme ici vient veut créer au Club Med, je ne sais pas quoi, autour de Dubaï, tout ça, mais c'est zéro tout ça. Parce que ça ne sauve pas, Un jour, l'homme meurt dans les maladies. Il a beau être riche, il a beau avoir tout ce qu'il veut, il est malheureux. D'ailleurs, les plus riches sont esclaves de la cocaïne, esclaves de ceci, esclaves de cela. Même dernièrement, Steve Jobs, il est mort de cancer à pas plus de 55 ans. Voilà, un homme aussi, un milliardaire. Dieu veut dire à chaque homme, il veut dire aux chrétiens douteux, il veut dire aux chrétiens de non, il veut leur dire, tant que je ne suis pas ton Seigneur, tu as un problème. Reconnais que tu es sourd en dirigeant ta vie par toi-même. Les gens qui sont tout à dire, je pense, au lieu de lire la parole, de dire ce que dit la parole, ils sont tout le temps à dire « je trouve que, je pense que ». Non, c'est ce que la parole dit qui compte. Et nous, on suit. Dieu veut être le Seigneur. Dites-moi, pourquoi Jésus va faire une telle chose? Va leur dire « allez prendre l'âne d'autrui ». Et si on vous pose la question, dites « le Seigneur en a besoin ». Il veut dire à ses disciples, je suis le Seigneur. Vous devez le comprendre. Attention. Parce que vous savez, les gens qui nous comprennent le moins, parfois, c'est les soins les plus proches. C'est la famille de Jésus qui a contesté Jésus au départ. Parce qu'on le voit chaque jour. On le voit chaque jour. Il mange comme tout le monde. Alors, on finit par négliger à qui on a affaire. Et il voulait comprendre à ses propres disciples, attention. Je suis le Seigneur. Attention. Attention. Je suis votre ami aujourd'hui. Je suis votre pasteur aujourd'hui. Je suis votre sauveur aujourd'hui. Mais je suis le Seigneur. Je suis le Dieu vivant. D'ailleurs, quand le monsieur va vous demander pourquoi vous prenez l'anneau, dites, le Seigneur en a besoin. Bien-aimés, cette exhortation, c'est pour ceux qui évangélisent, bien-aimés, Dieu est tout-puissant pour sauver. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Il ne faut pas hésiter là-dessus. Il ne faut pas se confier dans les techniques d'évangélisation. Il faut se confier dans l'Esprit. Ce que l'Esprit te demande de dire, il faut le dire. Jésus est le Seigneur. Il peut convaincre n'importe quel cœur. Nous lisons dans Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence !» Tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Jésus est dans la barque avec ses disciples, dans le lac de Génézareth, lac de Galilée. Et la tempête fait rage. Les vagues se soulèvent. Mais Jésus est en train de dormir. Pendant tous ces mouvements-là, lui, il dort. Alors ses disciples disent, mais attends, comment il peut dormir dans cette agitation? Jésus a voulu leur montrer qu'il est Seigneur. Il n'a rien à craindre. Il est le Seigneur de tout. Il est le Seigneur. Et quand il le réveille, il dit, mais Seigneur, nous sommes en train de mourir. Jésus s'est levé Il a dit à la tempête, silence. Silence. Il a dit à la mer, silence. Alors tout s'est calmé. Alors les disciples ont dit, mais qui est cette personne? Qui est cette personne? C'est écrit au verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ils étaient dépassés. Parce que les disciples croyaient quoi? Ils croyaient que Jésus était un prophète comme d'autres. Ils croyaient que c'était un rabbin comme d'autres. C'est-à-dire quelqu'un qui a de bons enseignements, qui font du bien, qui nous amène à être sérieux. Mais Jésus est plus que ça. Il est le Seigneur. Et Jésus dit à la tempête, silence! Ça se calme. Donc les disciples réfléchissent et disent, mais non, lui ne peut pas être un simple rabbin. Il n'est pas un simple prophète. Il y a plus que ça. Comment il peut dire à la tempête, silence, la tempête se calme? Nous lisons dans Jean 11. Jean 11. À partir du verset 17, il s'agit de la mort de Lazare. Lazare, un ami de Jésus, il est mort. Mais avant sa mort, on a dit à Jésus, ton ami est malade, viens le guérir, viens prier pour lui. On peut comprendre encore que tu guérisses, mais s'il meurt, tu vas faire quoi? Jésus a laissé le temps passer et Lazare est mort. Et donc, c'est normal quand il arrive au verset 17, on lui dit, mais il fallait venir avant. Verset 17, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Tu aurais prié pour lui, il serait guéri. » Verset 22, « Mais maintenant même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère reviendra à la vie. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Or, Jésus est en train de lui dire, non, c'est maintenant qu'il va revenir à la vie. Marthe se dit, oh, d'accord, au dernier jour, tout le monde ressuscitera pour le jugement. Mais Jésus dit au verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Elle lui dit, oui, Seigneur. Et verset 26, « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Marthe a du mal à imaginer que son frère puisse être ressuscité après 4 jours. Attends, quelqu'un est mort, ça fait 4 jours. 4 jours. Et elle fait des théories sur... le jugement, la fin des temps, au dernier jour, Dieu ressuscitera les morts. Non, Jésus lui dit c'est maintenant. Verset 28, ayant ainsi parlé, verset 28, ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au tombeau pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Donc, une façon de dire, « Mais pourquoi tu as traîné comme ça pour venir ?» Verset 33, Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Il a dit que Jésus a pleuré. C'est le seul verset où il pleure. Jésus pleura. Et c'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Jésus a pleuré de voir que l'humanité était désespérée face au mal, face à la mort, face aux maladies, face aux mauvaises circonstances. L'humanité est désespérée. Et Jésus pleure de ce que les gens ont oublié, que Dieu était au-dessus des mauvaises circonstances. Il pleure du fait que les gens ont oublié qu'ils ont un sauveur. Ils ont un maître. Le maître de la mort existe. Le maître de Satan existe. Le maître de la méchanceté, le plus grand que la méchanceté. Tout puissant, il existe. Celui qui peut briser la méchanceté, il existe. Celui qui a donné le passage, Proverbe 16, 7. Si Dieu est d'accord avec tes voies, il peut même disposer tes ennemis favorablement à toi. Il y a le maître de tes ennemis qui existe. Et Jésus pleure de voir que, hein, comme on dit ici dans le monde, quelqu'un qui a faim, mais qui dort sur un lit en or. Jésus dit, mais il ne sait pas qu'il a un lit en or. Ils ne savent pas que le maître existe. Pourquoi sont-ils désemparés face à la mort? Jésus a pleuré de voir l'humanité sans la foi. Sans la foi. Une humanité qui existe. Les gens qui se débrouillent par eux-mêmes, avec leur technique, avec leur logique. Jésus dit, mais pourquoi ne me demandez-vous pas? Il pleure de voir que Dieu est là et les gens continuent à souffrir et à se lamenter. Mais pourquoi ne pas crier à Dieu? Pourquoi ne pas faire appel au Maître? Et c'est ce que Jésus veut. Il veut être pour toi le Seigneur, le bon Maître. Ne laisse pas qu'il soit un jour pour toi le Maître juge. Qu'il soit pour toi le Seigneur sauveur. Ça, c'est agréable. Et il pleure. Il dit, mais où vous avez mis le corps? On lui dit, viens, tu vas voir. Verset 36. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. C'est vrai qu'il l'aimait. Verset 37. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Jésus crie d'une voix forte, « Lazare, sors !» C'est-à-dire que Jésus donne un ordre au corps de Lazare. Réveille-toi. Ça, c'est l'attitude du maître. Donc, même les molécules lui obéissent. Même le cœur lui obéit. Même un corps qui pourrit. Ça faisait 4 jours qu'il était mort. Un corps qui pourrit reprend vie. Parce qu'il obéit au maître. Alors, bien-aimé, si Jésus peut commander un corps qui pourrit et le corps obéit, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Donc tu n'as pas compris qu'il est le maître. Il est le maître de l'univers. Quand les disciples ont vu ça, ils ont compris à qui ils avaient affaire. Ils avaient affaire au maître de l'univers. C'est ainsi que quand il les envoie en mission, ils y vont. Ils y vont. Ils savent qu'il y a le maître de l'univers qui est avec eux. Lazare sort. Donc nous avons dit, bien-aimés, Dieu a laissé les hommes faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas que sa seigneurie est finie. Il est toujours seigneur. Mais ils veulent que les hommes se repentent de leur échec pour revenir à lui, pour dire, on a tenté de nous débrouiller par nous-mêmes. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Les guerres continuent. Les budgets des armements continuent. Vous savez, le budget de la défense des Américains, c'est 586 milliards. Rien que la défense, ça compte, ça monte. Donc, parce qu'il y a des guerres en vue, malgré toutes les réunions de paix, les maladies, ça monte. Il y a un nouveau virus qui atrophie la tête des enfants. Ça monte. De nouveaux cancers, de nouvelles maladies, ça monte. Dieu veut dire, mais regardez, je vous ai laissé, mais vous avez échoué. Tout se détruit. Et bien aimé, si je citais maintenant dans les églises, ce qu'on appelle officiellement des églises, vous êtes au courant des désordres qu'il y a aujourd'hui. Vous êtes au courant où les pasteurs commencent à prêcher clairement qu'on peut sortir de du corps. Ils prêchent la sorcellerie en direct. Donc parce que c'est des gens qui ont décidé de marcher sur leurs propres idées. Et ça va très loin. Dieu veut que chacun reconnaisse, là il y a un souci, on a échoué. Revenons nous mettre sous l'autorité du Seigneur. Revenons nous mettre sous l'autorité. Et maintenant, ceux qui choisissent l'autorité du Seigneur, là c'est un autre niveau. Ils appartiennent à Dieu maintenant. Tout est à Dieu. Mais ceux qui disent, à partir d'aujourd'hui, je laisse Dieu diriger ma vie, eux, ils sont la propriété privée. C'est-à-dire que Dieu n'autorise pas que quelqu'un vienne toucher, alors que pour les autres, même si ça lui appartient, les autres ont voulu leur liberté, Dieu laisse les circonstances tomber sur eux comme ça, ils regardent. Ils savent ce qui se passe, ils regardent. Jusqu'à ce qu'ils décident de stop. C'est-à-dire, nous refaisons le résumé. C'est-à-dire que malgré le fait que Dieu a dit, Dieu a laissé faire l'homme, il peut un jour dire stop quelque part. Comme il a dit aux gens de Ninive, stop, arrêtez avec le péché. Il a envoyé Jonas leur dire, arrêtez avec le mal. Sinon je vais détruire Ninive. Je dis stop, vous avez exagéré. Les gens de Ninive se sont repentis. Ninive a été sauvée. Mais Dieu a dit aussi stop à Sodome et Gomorre. Mais ces gens-là n'ont pas voulu se repentir. Dieu a détruit Sodome et Gomorre. Quand Dieu nous envoie parler de lui, en quelque sorte, nous sommes en train de dire à chaque homme, stop, le Seigneur veut récupérer ce qui est à lui. Il t'a laissé beaucoup de temps. Maintenant, il veut récupérer ce qui est à lui. Maintenant, il y a deux réactions. La première réaction, c'est de dire, c'est vrai, après tout, c'est lui qui m'a créé. Qu'il récupère, qu'il me récupère. Je suis à lui. Là, on en parle après. Et il y a la deuxième réaction. Ah non, je ne suis pas à Dieu. Moi, je suis libre. Je suis un humain. Dieu n'existe pas. Ah, Dieu n'existe pas, mais toi, tu viens d'où? Oh, d'une pierre, mais la pierre vient d'où? Voilà. Dieu n'existe pas, toi tu viens d'où? Oh, d'un singe. Mais le singe là qui produit les hommes, il est où? Ah non, mais c'est des déviations, des primates, tout ce que tu veux. Oui, mais avant tout ça, qu'est-ce qu'il y avait? Oh, c'était le Big Bang. Mais avant le Big Bang, la pierre là, ça vient d'où? Point d'interrogation. Je suis libre. Tu es libre, est-ce que tu t'es créé toi-même? Non. Et ces gens-là seront jugés. Et les autres qui ont dit, ah, c'est vrai, j'ai échoué. Seigneur, prends le contrôle. Ceux-là deviennent la propriété de Dieu. Ceux-là, maintenant, ils reçoivent une capacité. C'est quelle capacité? C'est de venir auprès de Dieu, de rappeler à Dieu, je suis à toi, protège-moi. Je suis à toi, donne-moi à manger. Et ils ont tout. Mais ils ont une autre capacité encore. C'est de dire à Dieu, même pour les endroits où les gens n'ont pas voulu de Dieu, c'est de dire à Dieu, c'est quand même à toi, fais quelque chose. Dieu va faire. C'est ça les gens qui évangélisent. Ils vont dire à Dieu, mais mon frère ne comprend pas, mon cousin ne comprend pas, un tel ne comprend pas ta parole, il ne croit pas. Mais puisqu'il est quand même, c'est toi qui l'as créé, que ton esprit le convainc, et Dieu va agir. C'est la capacité que Dieu a donnée à ces gens-là qui ont reçu le cachet sur eux. Ils ont dit, nous laisserons Dieu être notre maître. Ceux-là, ils peuvent attirer la vie là où il y a la mort. Ils peuvent attirer Dieu là où on a rejeté Dieu. Et c'est ce que Dieu leur demande. Il leur dit, c'est-à-dire que Dieu est en train de dire à ces personnes-là, je suis le Seigneur, n'ayez pas peur, vous pouvez m'inviter et je viendrai. Personne ne peut me bloquer. Et nous lisons donc dans Luc 7, un frère qui est pour nous un exemple que nous devrions tous suivre. Luc 7. Alors, bien aimé, quand les apôtres ont compris ça, ils ont compris qu'ils avaient l'autorisation d'utiliser le nom du Seigneur. Alors, tu vas dans une banque, tu viens avec un chèque signé par le président. La banque remplit seulement, c'est tout. Donc, les apôtres ont compris ça. Il y a un monsieur qui demandait l'argent à la porte la belle. Un mendiant, il demandait l'argent. Un infirme. Il demandait l'argent. Les apôtres lui ont dit, nous, on n'a pas d'argent, mais on a autre chose. On a reçu la capacité de produire la vie là où il y a la mort. On a reçu la capacité d'utiliser le nom de Jésus pour changer le corps des gens. Lève-toi et marche. Le monsieur s'est levé, il a marché. Tout le monde a vu. Les gens ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres ont dit, nous, on n'a pas de pouvoir. C'est le pouvoir de notre Seigneur. Parce qu'il est le Seigneur de l'univers. Il peut commander un corps. Et donc, nous lisons dans Luc 7. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine. » Car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Ah ! Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. » Amen. Jésus est le Seigneur. Et il y a un homme qui a compris ça. Il avait besoin que son serviteur soit guéri. Et il envoie des gens parler à Jésus. Et pour que le Seigneur vienne prier pour la guérison de son serviteur. Mais en chemin, le monsieur dit, mais lui, il est le Seigneur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant. Il n'a pas besoin de venir jusque chez moi pour prier. Il n'a qu'à donner un ordre, puisqu'il est le Seigneur, il est le Maître. mon serviteur sera guéri. Tout ce qui était dans le dysfonctionnement dans le corps de mon serviteur va se redresser à l'ordre du Seigneur. Quelle compréhension! Jésus, quand il a entendu cette phrase, il a dit, mais quelle compréhension de qui je suis? Et c'est cette compréhension que le Seigneur veut de nous tous. Et pourquoi cette compréhension est si difficile à accepter? Parce que nous-mêmes, nous n'acceptons pas qu'il soit notre chef. C'est pourquoi on a du mal aussi à accepter qu'il est le chef de tout. Commençons par accepter que Jésus est notre Seigneur. Nous verrons que nous réaliserons vraiment qu'il est le Seigneur de tout aussi. Et nous pourrons dire, Jésus te guérit. Comme Aîné a été guéri. Comme Tabitha a été ressuscité. Les apôtres pouvaient dire, Jésus te guérit. Lève-toi et marche. Ta situation change. Mais il faut commencer par reconnaître que Jésus est ton Seigneur. Tu es peut-être comme les sœurs de Lazare. Les sœurs de Lazare, même si au fond d'elles-mêmes, elles reconnaissaient que Jésus était bon, Jésus était un vrai prophète de Dieu, elles ne savaient pas à quel point Jésus était Seigneur. Mais puisque elles avaient accepté Jésus comme leur maître personnel, Jésus a voulu se révéler à elles comme le Seigneur de tout. Donc, dans leur situation, elles n'ont pas renié le Seigneur. Elles ont dit tout simplement, « Nous croyons en toi, mais Seigneur, là, nous sommes face à un cas qui dépasse l'imagination, tu vas faire quoi là, Seigneur? C'est notre frère, ça fait 4 jours qu'il est mort. Vous savez, dans notre vie à nous tous, il peut y avoir des situations dont on dit en français qu'elles sont inextricables apparemment. C'est tellement entremêlé. Parfois, c'est vieux la situation, ça fait longtemps. Il y a trop de paramètres. Et dans notre cœur, on continue à croire en Dieu, mais on a du mal à tout lâcher parce qu'on se dit, mais comment il va résoudre ce problème? On veut savoir comment il va faire. Et ça nous bloque pour accepter que Jésus est Seigneur. Alors aujourd'hui, accepte que Jésus est ton Seigneur. Au lieu de rester dans le péché, sous prétexte que c'est trop lourd pour toi, tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu ne sais pas comment arrêter le concubinage. Parce que tu n'as pas la force de dire à l'autre non. Tu ne sais pas comment arrêter la cigarette. Tu ne sais pas comment arrêter avec la domination de quelqu'un sur toi. Et tu sais en même temps que ce qui se passe dans ta vie n'est pas correct. Et tu es là au milieu du chemin. Tu ne veux pas te donner totalement à Dieu parce que tu sens que ça ne colle pas avec Dieu. Mais en même temps, tu te dis, mais qui va me délivrer? Qui va me délivrer? Qui va me sauver? Je comprends bien que Dieu a raison. Mais en même temps, qui va résoudre ce problème qui m'empêche d'être correct? Mais qui va résoudre ça? Dieu peut résoudre ça. Il est le maître. Commence-toi par dire, Seigneur, je ne veux pas prendre de prétextes. Ce n'est pas parce que ma situation est complexe, est tordue, compliquée, que moi, je dois attendre. Je commence par dire, Seigneur, prends tout. Prends le contrôle de tout. Règle tout. Je suis prêt à changer de vie. Je suis prêt à commencer une nouvelle vie. Et je te fais confiance. Et tu verras la seigneurie du Seigneur. Tu verras sa puissance. commence par accepter que autre chose est possible. Le problème des sœurs de Lazare, elles avaient du mal à accepter que leur frère puisse être ressuscité. Pourtant, elles croyaient en Dieu, et beaucoup croient en Dieu, mais ils ont du mal à accepter que Dieu nous donne la Normandie. Ils ont du mal à accepter qu'un tel se convertisse. Ils ont du mal à accepter qu'en France, au Parlement, il y ait des chrétiens. Et ils sont bloqués dans leur prière. Ils s'arrêtent à un niveau. Le niveau qui nous arrêtait doit tomber. On doit croire que Jésus est Seigneur. On doit le croire. Il est tout puissant pour convaincre n'importe qui. Il est Seigneur. Et comme nous l'avions dit, si aujourd'hui quelqu'un ne croit pas qu'il est Seigneur, tôt ou tard, c'est écrit dans Philippiens 2 que nous allons lire, tôt ou tard il croira, mais ça sera pour son jugement et non pour son salut. Philippiens 2. Ah ben, nous avons lu le témoignage, écouté le témoignage de notre bien-aimé Afshin, un Iranien, membre du Hezbollah, un tueur, un magicien musulman. Parce que par sa lecture du Coran, il était devenu un grand magicien, et les gens, pour jeter des sorts aux autres, ils venaient lui demander ses services. Il gérait plusieurs esprits démoniaques qu'il envoyait aux gens, et il cherchait toujours plus de puissance avec les mauvais esprits. Mais un jour, dans sa prison, parce qu'il a été emprisonné parce que il avait fait des grosses bêtises, et en prison, il a changé beaucoup de gens, les a amenés à l'islam. Et il était consulté encore toujours comme magicien islamique. Mais un jour, lui-même, il fait face à un esprit plus fort que lui. Et l'esprit commença à l'étouffer. Vous savez, dans ce monde, dans le monde des sorciers, il y a des combats à tout moment. Ce n'est pas un monde de paix. Il y a des gens qui veulent être sorciers pour voler la nuit comme des oiseaux, mais vous savez, les oiseaux, on les tue aussi avec les fusils. Hein. Donc, dans leur monde, il y a des aigles, il y a des canards, il y a tout ça. Et ce n'est pas intéressant. Et donc, lui, tu peux régner pendant un temps. Un jour, il y a quelqu'un qui viendra te battre. Et lui, il régnait. Mais un jour, il y a un esprit qui est venu l'étouffer. Et il commence à mourir. Il a fait appel à ses esprits, à lui, pour venir le protéger. Il a même appelé Satan, mais personne ne venait. L'esprit commença à le tuer. Il entend une voix qui lui dit, « Mais mets le nom de Jésus dans l'affaire. » Bien-aimé, j'aime beaucoup cette phrase-là. « Mets le nom de Jésus dans l'affaire. » Mais lui se dit, « Mais comment je peux mettre, je suis musulman, je vais mettre le nom de Jésus dans l'affaire. » On lui dit, « Mets le nom de Jésus dans l'affaire. » Alors, comme il était dans le doute, il a quand même, vous savez, quand quelqu'un se noie, tu n'as pas le choix. Nous tous, on nous a fait, c'est quoi, ça s'appelle comment là? On te met une caméra dans l'estomac. Endoscopie. C'est compliqué, mais quand tu n'as pas le choix, on s'est laissé faire. Donc, il n'avait pas le choix. La voix lui a dit, mets le nom de Jésus dans l'affaire. Il a dit, Jésus, si vraiment c'est vrai tout ce que la voix me dit là, je t'aimais dans l'affaire. Ah, bien-aimé, l'esprit qui venait l'étouffer a fui plus vite que la lumière. Il s'est senti libéré. Et c'est là qu'a commencé son problème. Comment Jésus pouvait le libérer, lui? Bien-aimé, vous vous rendez compte qu'un homme, un mauvais magicien, mais un jour dans sa vie, Jésus a décidé que c'était fini. Le règne des autres, le règne des mauvais esprits, le règne du mal. Jésus a dit, c'est fini chez cet homme-là. Ah, il est le Seigneur. Il dit, c'est fini. En fait, nous, le pouvoir que nous avons, c'est de le rendre Seigneur dans des endroits. Dire, Seigneur, je veux que tu sois Seigneur là-bas. Je veux que tu sois Seigneur là-bas. Eh bien, la voix de l'Esprit a dit à l'homme, mais dis à Jésus d'être le Seigneur dans cette affaire. L'Esprit a fui plus vite que la lumière. Et Afshin a commencé à dire, Jésus, pourquoi tu m'as libéré? Qui es-tu? Qui es-tu? Et Jésus lui est apparu. Jésus a dit, mais moi je suis mort à la croix pour tes péchés. Désormais je suis Seigneur, assis à la droite du Père. Désormais à mon nom, tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Va annoncer la parole. Et Afshin est devenu un enfant de Dieu. Bien-aimé, c'est pour nous dire que Jésus est Seigneur. Il nous demande de l'accepter comme le Seigneur de notre vie. Et pour ceux qui l'ont fait, il nous dit ceci. Je peux être Seigneur là où vous voulez que je sois Seigneur. C'est à nous de l'inviter dans nos maisons, de l'inviter dans nos vies, de l'inviter là où on travaille, de l'inviter pour dire, Seigneur, je veux que tu sois Seigneur là, dans cette affaire. Mets Jésus dans l'affaire. Et dans toute affaire, mets-le. Tu verras sa seigneurie. Mets Jésus dans l'affaire. Maintenant, il y a un groupe qui, malgré tout, refuse quand même. Là, Dieu vous dit qu'au dernier jour, vous reconnaîtrez que Jésus est Seigneur, mais ça sera à votre perte. Nous lisons dans Philippiens 2. À partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Il lui a été donné le nom au-dessus de tout nom. Et il dit lui-même dans Jean 14, 12, « Demandez en mon nom, ceux qui viennent après moi, en mon nom, ils feront de plus grandes choses. » Nous pouvons mettre le nom du Seigneur et tout genou fléchira. Nous pouvons connaître des moments difficiles, des moments où nous sommes comme sacrifiés, comme le Seigneur lui-même. Mais ces moments seront suivis de la puissance de sa résurrection. C'est ça qui a été la prédication de Pierre. Il a prêché le jour où il a fait marcher l'infirme. Il a dit, mais vous vous étonnez comment cet infirme a pu marcher. Ce n'est pas notre puissance. Ce n'est pas parce que nous sommes aussi des gens très pieux. Non, c'est par la foi dans le nom de Jésus qui est le Seigneur de tout. C'est la foi en ce nom-là qui a fait marcher cet homme qui était infirme. Parce que ce Seigneur-là que vous avez crucifié, mais Dieu l'a ressuscité. Et aujourd'hui, il est proclamé le Seigneur des Seigneurs. Et tout genou fléchira devant lui. Et c'est ainsi que l'infirmité de cet homme a obéi à son nom. Et il s'est relevé. Alors, nous vous invitons, vous tous aussi, à reconnaître Jésus comme votre Seigneur. Les gens ont dit, qu'est-ce que nous devons faire? Pierre a dit, convertissez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus. Amen. Et c'est ce que Dieu te dit aujourd'hui. Que dois-tu faire? Accepte que Jésus soit maintenant ton Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il continue ses miracles. Aujourd'hui encore, nous avons deux baptêmes. Et le premier baptême, c'est une de nos filles, une jeune de l'Église qui se donne à Dieu. Et bien aimé, nous bénissons le Seigneur parce qu'elle est la suite d'une succession, d'une série d'autres baptêmes de jeûnes. On dit aujourd'hui que les jeunes n'aiment que le plaisir, la légèreté, la distraction. Mais Jésus est Seigneur. Un jour, il dit stop. Bien-aimé, ça fait longtemps qu'on travaille pour Dieu dans ce lieu. Je ne peux pas vous dire que c'est pas le fruit des prières spéciales qui produit cette série de baptêmes. Non, nous avons continué à servir le Seigneur, à prier, à crier à Dieu, comme on a fait autrefois. Mais nous reconnaissons la Seigneurie de Dieu. Un jour, il dit stop. Je veux montrer que je suis Seigneur. Donc même les jeunes vont se convertir. Toute cette série de baptêmes n'est pas le fruit d'un appel au salut pour dire venez, venez, venez. Non, c'est les jeunes eux-mêmes qui viennent à tour de rôle nous voir pour dire je vais donner ma vie. Ce n'est pas après une prédication puissante, entre guillemets, insistante, non. C'est parfois pendant la semaine. C'est parfois dans les maisons, ils vont voir leurs parents. C'est parce que Jésus, un jour, dit « Stop ». Il dit à Satan « Tu quittes cet endroit. On m'a demandé de venir ici. Toi, tu pars. » J'aime voir ça, bien-aimé. J'aime voir qu'on dégage Satan d'un endroit et c'est Jésus qui prend la place. Voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et l'autre, c'est encore une démonstration de la Seigneurie du Seigneur parce que c'est quelqu'un qui était dans le catholicisme à fond, qui allait même perdre son argent à Lourdes. Mais un jour, Jésus lui dit, tous ces trucs-là, c'est faux. c'est un jeune de 15 ans dans la Trinité Tobago. Sa mère, c'était une prêtresse hindoue. Et beaucoup d'Africains ont peur des hindous. Là. Parce qu'en Afrique, l'Inde, c'est le siège de Satan. Donc, tout le monde a peur de l'Inde. La haute magie, c'est en Inde. Et cet enfant-là, sa mère était une prêtresse hindoue. Donc, elle n'était pas seulement hindoue, mais prêtresse. Elle invoquait directement le diable. Mais son enfant de 15 ans a été invité dans une campagne d'évangélisation. Et Jésus a dit stop dans sa vie. Il a dit, c'est moi qui viens maintenant là-bas. Et l'enfant a accepté Jésus comme le Seigneur. Et quand l'enfant revient le soir à la maison, il voit sa mère dans la position de prière, en train de faire ses mantras, comme on dit. L'enfant vient dire à sa mère, « Maman, ces trucs que tu fais là, ça ne compte pas, c'est zéro. C'est Jésus qui est le Seigneur. » Je sais que même beaucoup de chrétiens n'auront pas le courage d'affronter une hindoue comme ça. Mais cet enfant-là, j'aime les nouveaux convertis, ils n'ont pas peur. Jésus est frais en eux. On ne touche pas. Donc, les nouveaux convertis, avec eux, on ne touche pas le nom de Jésus. Il est encore très frais. Il dit à sa mère, tout ça c'est zéro. C'est Jésus qui est le chef. Sa mère dit quoi? Mon propre fils veut me provoquer dans les puissances. Il va voir ce que je vais lui faire. Le fils n'est pas parti intercéder comme on a entendu dans certaines prédications dans les milieux chrétiens. Il n'est pas parti rester dans sa chambre prier pour contrer sa mère. Il est parti faire quoi? Dormir. Parce que c'est la nuit. Il est parti dormir. C'est ce que dans Psaume 127, pendant que son bien-aimé dort, Dieu est en train de lui préparer les choses. Je sais que beaucoup de chrétiens, quand ils ont fait une telle provocation, quand ils rentrent à la maison, je provoquais une prêtresse là-bas. Donc moi, allez, frère, intercédons. Oh. Si c'est le Saint-Esprit qui dit qu'on intercède, on intercède. Mais on ne va pas intercéder par peur. Parce que Jésus est Seigneur. Cet enfant a dit, tous ces trucs, c'est zéro. Moi, je vais dormir. Tu verras que tout ça, c'est rien. Jésus est le plus fort. Mais sa maman a fait des incantations contre son fils, contre le Jésus de son fils. Satan même a refusé de venir à l'appel de sa maman. Et vers 4 heures du matin, elle continue. Vers 4 heures du matin, le Seigneur lui-même sort maintenant. Il lui dit en face, tout ça c'est zéro, c'est moi qui suis Seigneur. Amen. Bien-aimé, tout ça c'est zéro, l'histoire de haut franc-maçon, haut politique, tout ça c'est zéro. C'est Jésus qui est Seigneur. Et un jour, il dit stop. Tout ça, c'est zéro. C'est moi qui suis Seigneur. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre Jésus. Comme le centenier romain. Il a dit, donne un ordre seulement. C'est parce que c'est toi le Seigneur. Donc, je vais appeler Maïlis qui va nous dire pourquoi elle va se faire baptiser au nom de Jésus.
Alors bonjour. Je vais me faire baptiser parce que je crois que Jésus il est ressuscité pour moi et que c'est mon roi.
Voilà, Jésus est son Seigneur. Maintenant. Nous allons appeler Marina aussi. Marina, elle n'est pas d'ici, elle vient de Paris, mais quand Dieu l'a touchée, elle n'a pas encore trouvé d'église et elle connaît quelqu'un de Rouen qui l'a amené. Je l'ai vu vendredi et aujourd'hui.
Bonjour, c'est Marina, je viens de Paris, mais parce que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Frères et sœurs, j'ai quelque chose à vous dire parce que j'étais déjà dans le catholicisme depuis des années, j'étais pratiquante. C'est moi, je partais à l'eau, je faisais tous ces rituels et tout. Et ce mois de février, dans ma chambre, je priais. Ce jour-là, je n'ai pas compris parce qu'on a des trucs. Excusez-moi. Et ce jour-là, je n'avais pas fait ce rituel. J'étais dans ma chambre et j'ai prié avec autorité que je n'ai jamais fait. Et ce jour-là, Jésus m'a parlé. Et c'est à partir de là, je me suis décidée de tout laisser. J'ai tout jeté, j'ai tout enlevé, j'ai tout jeté les images. Et je vais me faire baptiser aujourd'hui parce que je vais l'accepter. Je serai 100% avec Jésus ce jour.
Dieu.